Bonjour chers fidèles auditeurs de VOA Afrique. Devant ce micro, Nanit Talani pour vous présenter votre santé, votre avenir.
La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé l'accès au système de santé dans de nombreux pays. La lutte contre des maladies comme l'épilepsie en a été affectée. Comment ? Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes atteintes d'épilepsie ?
Quand la pandémie a commencé en mars 2020, il y a des pays où il y avait des hôpitaux qui étaient consacrés au cas COVID. Donc les autres patients, qu'ils soient épileptiques ou autres, n'avaient aucun accès aux hôpitaux. Donc ce qui fait parfois les personnes étaient complètement livrées à eux-mêmes. Et il y avait beaucoup de cas qui se sont aggravés, qui sont morts malheureusement d'épilepsie.
Pour en parler, nous recevons le professeur Najib Kissani et Madame Chantal Kanyabutembo. Madame Kanyabutembo est cofondatrice de Gecko Rwanda, une ONG de la lutte contre l'épilepsie et membre de l'Alliance africaine contre l'épilepsie. Notre deuxième invité, Najib Kissani, est professeur de neurologie au CHU Mohamed VI de Marrakech et directeur de recherche au Centre de recherche de la Faculté de médecine de Marrakech au Maroc. Il est aussi président de la Ligue marocaine de lutte contre l'épilepsie et directeur du groupe Telehealth, c'est-à-dire tout ce qui est télémédecine, et e-santé de l'Alliance africaine pour l'épilepsie.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici le moment de suivre la discussion que nous avions eue avec le professeur Najib Kissani du CHU Mohamed VI de Marrakech au Maroc et Madame Chantal Kanyabutembo de Gecko Rwanda. Bonjour professeur Kissani.
Bonjour, merci de m'avoir accueilli pour cette émission.
Merci beaucoup, professeur. Nous avons Chantal qui vient de nous rejoindre. Bonjour Chantal.
Bonjour Chantal.
Bonjour Dr. Najib.
Merci de nous rejoindre.
Oui, je suis la cofondatrice de Gecko et je suis membre de l'Alliance de l'Afrique.
Peut-on savoir quelle est la prévalence de l'épilepsie en Afrique notamment?
D'abord, la prévalence, c'est-à-dire c'est le nombre de cas total par en général 100 000 habitants, ou bien on peut le faire par pourcentage pour simplifier. Dans le monde, c'est en général dans les pays développés, ça varie presque de 1 pour 1000, c'est-à-dire pour 1000 personnes, on a un épileptique. En Afrique, malheureusement, on a les chiffres de prévalence les plus élevés. C'est en moyenne de 1 à 2, 3%, mais il y a des pays où c'est même le top, c'est-à-dire c'est jusqu'à 5 à 6%.
Quelle est la partie de l'Afrique la plus touchée?
L'épilepsie, elle touche tous les âges, mais il y a deux pics de fréquence. Le premier, c'est de 1 à 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est les facteurs génétiques, les facteurs liés à la souffrance, à la naissance. Et vous savez qu'en Afrique, dans les pays en développement, on a beaucoup d'accouchements qui se passent à domicile, avec de grosses difficultés. Il y a aussi tout ce qui est infection, tout ce qui est convulsion fébrile. Et aussi, il y a beaucoup de maladies malformatives. Et un deuxième pic, c'est surtout chez les sujets âgés de 50 ans, 60 ans à plus, parce qu'il y a les causes vasculaires et les causes tumorales.
De façon succincte, quelles sont les principales causes de l'épilepsie?
La prévalence est très élevée en Afrique. Ben pourquoi? Parce que les causes infectieuses sont très dominantes en Afrique, et notamment les causes parasitaires. Donc c'est ça ce qui fait qu'en Afrique, on est vraiment, je dirais, les champions en termes de prévalence. Et on a beaucoup de cas de cysticercose, donc cocercose, de paludisme. Mais par ailleurs, en fait, toute souffrance du cerveau, surtout du cortex cérébral, la couche externe, elle peut être responsable d'épilepsie. Ça peut être des lésions vasculaires, ischémiques, infectieuses, comme je l'ai dit, donc post-traumatiques, malformatives, métaboliques. Et parfois, il y a des causes héréditaires quand il y a la consanguinité et d'autres cas dans la famille.
En ce qui concerne les symptômes, comment est-ce qu'on peut facilement reconnaître qu'une personne est en train de faire une crise d'épilepsie?
Pour les symptômes, l'épilepsie, c'est en fait la chronicité des crises. Quand c'est une seule crise, on ne parle pas d'épilepsie parce qu'elle peut être accidentelle, à beaucoup de problèmes comme l'hypoglycémie, la fièvre chez l'enfant, un traumatisme, l'alcool. Donc les symptômes, c'est en fait l'expression de la décharge électrique dans le cerveau. Soit elle peut être généralisée, et il y a deux types de crises généralisées, soit les crises absences, c'est les plus simples, les plus bénignes, les plus gentils. C'est une suspension de la conscience, la personne reste quelques secondes à une minute à deux. Parfois on bloque complètement, elle ne répond pas, elle ne réagit pas, elle ne ferme pas les yeux. Elle peut avoir des petites myoclonies, c'est ce qu'on appelle en fait les absences ou le petit mal. Très facile à traiter, aussi facile à reconnaître par les neurologues, les pédiatres. Et il y a les crises généralisées, tonico-cloniques, c'est les plus sévères.
Comment se manifeste-t-elle?
C'est en fait la personne qui perd connaissance, qui chute, qui peut avoir une blessure, une fracture du visage parce qu'il n'a même pas le temps de se protéger. et surtout elle va avoir une attitude tonique des muscles vraiment très très forte, et après suivie de crises chroniques, c'est-à-dire de secousses musculaires violentes. Après, elle va avoir une phase tertoreuse, c'est-à-dire une mousse aux lèvres, la reprise de la respiration très bruyante. Et à la suite de tout ça, la personne va perdre les urines, elle va parfois mordre la langue. Et surtout quand elle se réveille vraiment dans un état de courbature, de fatigue extrême. Et entre ces deux crises-là, il y a les crises partielles qui ne touchent qu'une partie du cortex cérébral. Et ça dépend de la partie touchée, ça peut être la motricité, des crises motrices, par exemple des secousses d'un seul membre. Ça peut être des crises sensitives, par exemple des fourmillements dans un autre membre. Ça peut être des crises visuelles, olfactives, gustatives, auditives, et même parfois des crises psychologiques, par exemple des problèmes de mémoire, de langage, ou parfois même des troubles de comportement.
Merci professeur Kisani pour toutes ces explications.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Cette fois-ci, nous allons aborder la question centrale de notre discussion aujourd'hui, les difficultés rencontrées dans la lutte contre l'épilepsie, notamment dans cette période de COVID-19. Déjà avant la pandémie, quels étaient les grands problèmes auxquels vous étiez confrontés dans la lutte contre l'épilepsie?
Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, vraiment, je dirais, c'est le continent le plus défavorisé en termes de prise en charge. Malheureusement, il y a beaucoup de baromètres très négatifs. La pauvreté, le manque de spécialistes, le manque de moyens, le manque d'infrastructures, les guerres. On est en fait plus lésé que l'Amérique latine, que l'Asie, qui sont un petit peu aussi des pays en développement. D'ailleurs, un article qu'on vient de publier récemment, que j'ai partagé avec vous, c'est le nombre de neurologues en Afrique et comment couvrir le manque, c'est-à-dire how to cover the gap. Et d'ailleurs, dans ce papier-là, on avait souligné qu'il y a des pays, malheureusement, il y a presque 6 pays ou 7 pays où il n'y a aucun neurologue. Donc imaginez des pays, parfois, où il y a 4, 6, 10 millions d'habitants, il y a zéro neurologue, donc qui va prendre en charge les patients épileptiques. L'autre problème, c'est le problème d'accès aux soins. Donc il y a beaucoup de personnes et de patients qui sont un peu loin des structures de santé, qui n'ont pas les moyens pour y aller, pour accéder. Il y a parfois des difficultés géographiques. Les gens habitent dans le rural, les montagnes. Il y a des pays enneigés. L'autre problème, c'est le problème de un petit peu de l'accès, par exemple, aux structures médicalisées, surtout accès au traitement.
Il coûte cher, le traitement?
Le traitement, ça coûte cher. Il y a des pays où c'est disponible dans les hôpitaux publics, mais le problème, c'est que souvent, c'est pas le cas. Et il y a aussi des médicaments qui sont même pas disponibles en Afrique. Il y a parfois des génériques qu'il faut avoir de l'étranger, et ça complique un peu la situation. Et l'autre problème, c'est tout ce qui est pratique traditionnelle. Donc en fait, tous ces problèmes-là étaient déjà un peu très pertinents avant la pandémie, mais une fois la pandémie est arrivée, là, il a un petit peu compliqué les choses.
Comment la pandémie a-t-elle compliqué les choses dans la lutte contre l'épilepsie?
Parce que déjà les personnes qui étaient un peu exclues du système de soins, et vous savez que quand la pandémie a commencé en mars 2020, il y a des pays où il y avait des hôpitaux qui étaient consacrés qu'au cas Covid, donc les autres patients, qu'ils soient épileptiques ou autres, n'avaient aucun accès aux hôpitaux. Donc ce qui fait parfois les personnes étaient complètement livrées à eux-mêmes, et là il y avait beaucoup de cas qui se sont aggravés, qui sont morts malheureusement d'épilepsie, qui ont vu des crises aggravées, donc ils ont emporté le patient. Il y a aussi ce qu'on appelle l'état de mal épileptique, c'est-à-dire c'est des crises non-stop qui peuvent aussi survenir s'il n'y a pas de traitement. Il y a la télémédecine un petit peu qui a essayé de pallier à ce manque, mais elle n'est pas généralisée à beaucoup de pays. Donc c'est ce qu'on essaie de développer dans notre alliance.
Chantal, à votre niveau au Rwanda, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous étiez déjà confrontée dans la lutte contre l'épilepsie avant la pandémie de COVID-19?
Avant la pandémie au Rwanda, les difficultés qu'on a pu avoir, c'était d'avoir des fonds vraiment pour des awareness, les campagnes, c'est-à-dire aller dans les lieux ruraux et puis informer les gens comment est l'épilepsie, comment aider les malades sur le terrain, par exemple, dans les villages, dire aux gens, par exemple, de laisser le mythe, c'est-à-dire les rituels des sorciers, par contre, d'amener les enfants vers l'hôpital. Mais apparemment, quand tu regardes le Rwanda, il y a eu vraiment un grand progrès à partir de 2010 jusqu'en 2016. Il y avait quand même remarquablement un grand...
C'était quoi le grand progrès?
Ils ont quand même collecté tous les malades et ils ont essayé de décentraliser le système mental. Et c'est à ça que tu vois qu'actuellement, avec Dr. Najib, on est capable de voir de faire la télémédecine à partir du Rwanda et puis on essaie d'intégrer les malades et d'autres docteurs pour voir la solution, par exemple, dans les cas neurologiques, Par exemple, si un enfant a un cas très compliqué concernant l'autisme et l'épilepsie en même temps, ce ne sont pas tous les docteurs qui peuvent savoir faire ça. Il faut vraiment l'intervention des spécialistes comme eux et puis d'avoir quand même des échanges sur le diagnostic. Les autres problèmes qu'on a trouvés, c'était par exemple la nutrition des malades. Beaucoup de malades étaient pauvres, mais quand même actuellement, le gouvernement a essayé d'améliorer leur part nutritionnelle. Ils ont amélioré aussi les antiépileptiques drogues, donc ils ont augmenté la carmapézine et le levéritacétam.
Quel a été l'impact du corona sur la lutte contre la maladie?
Sur les difficultés, c'était la pauvreté qui a vraiment affecté les malades. Certains malades ne voulaient plus encore prendre leurs prescriptions et c'était vraiment très difficile à eux d'avoir accès à la nourriture parce que les effets secondaires de ces médicaments comme la dépakine, les gens qui prennent ça, ils doivent manger régulièrement et avoir beaucoup à boire, par exemple les trucs nutritionnels, les fibres, etc., la boisson énergétique, tout ça. Mais beaucoup de gens n'étaient pas en mesure d'avoir tout ça et c'était difficile de continuer leur thérapie.
Professeur Kisani, vous à votre niveau, qu'est-ce que vous avez constaté sur l'impact du COVID sur la lutte contre l'épilepsie?
Effectivement, avec l'avènement de la pandémie, au début, c'est vrai, je pense, tous les gouvernements, tous les pays étaient un petit peu déboussolés, désorientés. Donc, c'était très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on avait bloqué, fermé les hôpitaux. On ne savait pas ce que c'est que le Covid à l'entrée, donc c'est pour ça qu'on avait donné tout le temps, tous les hôpitaux, toute l'énergie au Covid, mais malheureusement, on avait négligé un peu les autres maladies, dont l'épilepsie. Donc, comme je l'avais expliqué, il y avait un blocage pour les cas d'épilepsie. C'est vrai, nous, on avait continué, par exemple, au Maroc, quelques pays africains, à rentrer en contact avec quelques-uns de nos patients avec qui il y avait le contact par téléphone WhatsApp. Donc, en fait, on faisait de la téléconsultation. Au Maroc, on avait même autorisé les pharmaciens à délivrer le traitement grâce à la photo WhatsApp de l'ordonnance. Par exemple, le malade, il est à 400 km, on le voit, on dit comment ça va et tout, on fait une consultation par WhatsApp, par téléconsultation, après on renouvelle l'ordonnance et le malade reçoit son ordonnance sur son téléphone, il l'emmène à son pharmacien à côté de sa maison et il prend le médicament. Et donc peut-être c'était 6-8 mois après le début de la pandémie que on a commencé un peu à revenir à la normale, à s'habituer, je dirais, à la pandémie. Et c'est là où un petit peu nos malades ont un peu retrouvé une vie normale. Mais vraiment, c'était très difficile au début. Et je pense en fait qu'avec la pandémie, ça a un petit peu poussé les gens, même les gens hésitants à la télémédecine, à s'y mettre parce que pas seulement la consultation, les soins, mais aussi tout ce qui est formation, tout ce qui est éducation. Ça aussi, on le faisait grâce aux webinaires à distance. Et ça aussi, c'est vraiment un grand avantage des nouvelles technologies durant la pandémie.
Vous êtes quand même débrouillé à trouver des alternatives à ces difficultés que la pandémie a causées.
Oui, tout à fait. Déjà, parce que nous, on avait la télémédecine avant, je dirais, au Maroc, on avait démarré en 2015-2014. Donc, en fait, on était déjà un petit peu armés. Et en fait, avec la pandémie, on avait un petit peu doublé de, je dirais, d'efforts. Et aussi, ce qu'on faisait même avec les patients Covid, d'ailleurs, à l'époque, au lieu de rentrer en contact avec eux et d'attraper la maladie pour le personnel, on leur donnait des numéros de téléphone et on faisait des téléconsultations même pour les gens hospitalisés, qu'ils soient épileptiques ou non épileptiques, c'est-à-dire les gens atteints de la maladie du Covid.
Le Covid a aussi des impacts chez certaines personnes sur le plan neurologique. L'épilepsie, c'est aussi une maladie qui touche les nerfs. Est-ce qu'on peut dire que les personnes épileptiques sont les plus exposées ou parmi les plus exposées au Covid, professeur?
Non, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur les maladies neurologiques en général. Et là, c'est pas l'épilepsie qui est aggravée par le Covid, c'est-à-dire l'épilepsie n'est pas influencée, n'est pas aggravée. On peut avoir par contre d'autres lésions du cerveau qui peuvent donner l'épilepsie, comme les AVC, comme certaines encéphalites. C'est assez fréquent dans le neuro-Covid et ça, ça peut se compliquer d'épilepsie. Mais quelqu'un juste qui est épileptique, le Covid n'aggrave pas sa situation. Ni le Covid, ni les médicaments, le vaccin. Il y a aussi parfois des patients qui se compliquent après les vaccinations. Mais c'est vraiment négligeable. D'ailleurs, l'épilepsie s'est trouvée parmi les maladies les moins impactées par le virus du Covid.
Chantal, au niveau du Rwanda, avez-vous eu des cas des personnes épileptiques, des malades qui ont eu aussi le Covid? Quel en a été le résultat? Est-ce que la maladie a été grave du fait que ces personnes sont épileptiques?
Non, il n'y a pas eu vraiment des cas graves sur les malades épileptiques. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, ils se sont bien en sortis. Ils avaient que des symptômes moyens, donc ils n'étaient pas très très grave. Ce que j'ai remarqué aussi sur la vaccination, il n'y a pas eu des effets néfastes et je trouve que vraiment le gouvernement a bien décortiqué le problème parce qu'ils ont mis d'abord les vulnérables comme les premiers à avoir les vaccins et les gens qui avaient l'épilepsie étaient les premiers à avoir ces vaccins.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Par rapport aux difficultés, professeur, que vous avez énumérées, le manque de spécialistes, vous avez aussi dit qu'il y a des pays où parfois il n'y a pas de neurologue ou pas assez. Peut-on savoir quels sont les principaux pays qui sont concernés par cette situation?
Oui, effectivement, là, on avait fait cette étude, d'ailleurs, qui nous a pris presque une année pour écouter les données vraiment de tous les collègues africains. Et surtout que c'est des données qui changent. D'ailleurs, on avait fixé ça à fin décembre 2021, c'est-à-dire c'était des chiffres à cette date-là. Et donc, on avait trouvé des pays comme la Gambie d'ailleurs, qui est membre de l'Alliance africaine. Il y a un seul neurochirurgien dans le pays, il n'y a aucun neurologue. Il y a aussi le Sud-Soudan, il n'y a aucun neurologue pour le moment. On n'a des données que des collègues du Soudan. Il y a aussi Djibouti et l'Érythrée, il n'y a pas de neurologue. On a les collègues de l'Éthiopie qui est à côté. Et malheureusement, les patients de ces pays-là, ils doivent aller jusqu'en Éthiopie pour se faire soigner. Ceux de la Gambie, parfois c'est le neurochirurgien, parfois ils vont au Sénégal qui est un pays qui entoure la Gambie. On a aussi la Guinée-Bissau, les Seychelles, on a deux autres pays en fait. Et donc en fait, dans ces pays-là, il n'y a aucun neurologue et les autres, d'ailleurs l'article, il est online, les gens ils peuvent faire juste « Why Africa has the lower number of neurologists and how to cover the gap », c'est-à-dire pourquoi l'Afrique est là le nombre le plus faible de neurologues et comment couvrir ce manque. D'ailleurs le papier, il est disponible. Et parmi les autres pays, en fait, la majorité, ils ont presque moins de 30 neurologues. Donc imaginez des pays comme la RDC, République démocratique du Congo, ou l'Éthiopie qui ont moins de 30 neurologues pour presque 120 millions d'habitants. En fait, c'est l'Égypte qui est vraiment le pays qui est à la hauteur. Ils ont presque 3000 neurologues, suivi de l'Algérie dans le deuxième groupe. Après, c'est l'Afrique du Sud, le Maroc. Et les autres pays, vraiment, ils sont vraiment très au-dessous de la moyenne exigée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS.
Professeur, qu'est-ce qui peut expliquer cette disparité?
Il y a des pays qui étaient sous-développés. Il y a le colonialisme, il y a des pays en fait qui n'ont pas démarré, qui ont eu des guerres. Par exemple, la Somalie, ils ont 3 neurologues ou 2 neurologues. Ben pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de neurologues, mais avec les guerres qui ne se sont jamais arrêtées, il y a beaucoup de neurologues qui ont immigré. Par exemple, là, vous allez trouver des neurologues somaliens au Canada, aux États-Unis. De chauffeurs de taxi, de fonctionnaires, par exemple, au Canada et en Australie. Et malheureusement, ça, c'est l'exode. C'est les gens qui ont fui les guerres. Il y a d'autres pays où c'était malheureusement juste. L'État n'a pas pensé à développer certaines spécialités. Il y avait aussi le colonialisme. Il y a aussi la formation. Par exemple, en Afrique, il y a de grands centres de formation, comme par exemple au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Égypte, en Côte d'Ivoire, en Kenya et en Afrique du Sud. Quelques pays, ils ont envoyé très tôt des jeunes neurologues se former ou des jeunes médecins se former dans ces pays-là. Ben, d'autres n'ont pas un peu parcouru cette piste-là. Et donc, ils sont un peu restés sans spécialistes jusqu'à très récemment, ils ont un petit peu commencé à former. Par exemple, l'Érythrée, d'ailleurs, l'étude quand on l'avait faite, il y avait un médecin du Sénégal qui était au Canada, qui était en contact avec un médecin érythréen, un neurologue en formation. Et c'est lui qui nous a dit qu'en Érythrée, il n'y avait personne. D'ailleurs, c'était le seul, mais il est encore en formation au Canada.
Chantal, vous avez énuméré le fait que pendant la pandémie, beaucoup de malades ont manqué de nourriture. La pauvreté s'est aussi accrue. Est-ce qu'il y a eu des alternatives à cette situation? Comment ces malades s'en sont-ils sortis?
Il y a eu des alternatives à cette situation. Le gouvernement avait donné de la nourriture aux malades, donc on donnait des dons à ces malades-là et ils ont aussi collecté toutes les organisations humanitaires dans le pays de donner aussi la nourriture aux malades et faire une provision provisoire pour eux. C'est ça qu'on a fait. Mais après, quand il n'y avait plus trop de barrières, des gens pour entrer de zone en zone, en ces temps, ils ont permis à ces gens-là d'entrer dans des programmes qu'on appelle des TIVET, c'est-à-dire même dans l'agriculture, ils ont donné des champs pour cultiver et avoir un peu de quoi manger.
Et donc maintenant, leur situation s'est un peu stabilisée?
Ça s'est stabilisé un peu, mais tu trouverais toujours qu'il y a d'autres qui n'ont pas bénéficié, mais il faut reconnaître aussi que l'économie n'est pas aussi bien comme auparavant dans tous les pays d'Afrique sont affectés et il nous faut quand même des donneurs qui viennent et qui regardent la situation et mettent les facts sur la table et donnent de quoi manger à ceux qui n'en ont pas. Et je crois que nous devons toujours nous allier comme les membres de l'Alliance à parler à haute voix de ce problème parce qu'il y a des conséquences néfastes à travers la malnutrition qui émerge et que ces gens-là perdent leur vie. Donc, un malade qui devait avoir l'espérance de vie de plus de 20 ans, il peut même mourir d'une crise cardiaque s'il n'a pas à manger, il prend des médicaments très forts. Par exemple, les sabrils en Afrique, ça coûte coûte 100 dollars et beaucoup de familles n'ont pas ces revenus-là. Le phénobarbital, des cas graves, par exemple, des enfants qui ont des troubles mentaux liés à l'autisme, à l'épilepsie et d'autres complications neurologiques, il est vraiment bien difficile au gouvernement de couvrir toutes ces parois-là. Même dans les pharmacies locales, on ne peut même pas trouver ça et c'est un problème. Donc, tu peux commander les médicaments à partir du Kenya.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Professeur, vous avez mentionné aussi les difficultés d'accès aux soins ou aux traitements. Que doit-on faire?
Parmi les problèmes, effectivement, on a énuméré le manque de structures de soins, le manque de spécialistes, le retard du traitement. Il y a aussi parfois des raisons d'ignorance, de tradis praticiens, de guérisseurs traditionnels. Ça aussi, c'est très fréquent en Afrique. Le problème matériel d'éducation, de sensibilisation. Effectivement, le problème d'accès aux médicaments, c'est très épineux parce que d'une part, soit ils ne sont pas disponibles, les médicaments, très peu sont disponibles, ou bien soit que les patients n'ont pas les moyens pour acheter les médicaments. Parfois, l'État ne les a pas gratuitement dans les centres de santé, les hôpitaux de proximité dans le monde rural. Ce qui fait, les patients parfois, ils peuvent ne pas marcher sur un et doivent avoir un deuxième médicament. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en fait mettre à leur disposition ces molécules. Et là, il y a quand même ce qu'on peut faire en pratique, c'est faire des projets de banque de médicaments, financés un petit peu grâce à des aides, à des fondations, donc l'Alliance africaine contre l'épilepsie, elle englobe plus de 35 pays maintenant, de toutes les parties d'Afrique et beaucoup d'associations très actives. Et on a vraiment des milliers de patients dans chaque association qui parfois ont besoin de médicaments. Et comme a dit Chantal, vraiment, on a eu pas mal de cas qu'on a vu par télémédecine du Rwanda. Et d'ailleurs, je vois même des cas du Niger, des cas de la Mauritanie, du Malawi, du Zimbabwe. Et d'ailleurs, on a eu des cas grâce à le Vigabatrin, par exemple, qui n'est pas disponible dans beaucoup de pays où ils s'abrillent. Et vraiment, ils ont vu leur épilepsie se stabiliser et s'arrêter. Et vraiment, les enfants ont pu retrouver une vie normale. La panique des parents s'est arrêtée et le calme est revenu. Et vraiment, c'est le point d'amélioration de la courbe de ces patients-là. Et tout va redevenir normal. Même l'apprentissage chez ces enfants-là, il va reprendre son cours normal.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Nous arrivons à la fin de notre programme. Professeur Kisani, avez-vous un souhait à exprimer en rapport avec la lutte contre l'épilepsie?
Oui, je vous remercie déjà pour ça. Donc, en fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrive à faire sortir cette maladie de l'ombre. Il y a aussi le côté stigmatisation. Donc, ils ont parfois honte de dire qu'ils ont un patient épileptique. Donc, ce qu'on dit aux familles et aux patients, c'est de sortir de l'ombre, c'est de parler de leur maladie. D'ailleurs, Chantal est avec nous. Elle est vraiment très courageuse. Elle est présidente d'association et on a beaucoup d'imminents chercheurs et responsables d'associations et de gens très actifs qui sont épileptiques et qui n'ont pas honte de leur maladie. Et surtout qu'elle est guérissable, qu'on peut la traiter. D'ailleurs, 80% des patients vraiment voient leur crise disparaître à tout jamais avec un bon traitement qu'on pourra arrêter après en général 2 années d'absence de crise.
Merci beaucoup Chantal. Un souhait à exprimer?
Toute personne qui écoute cette émission doit prendre ça comme quelque chose qui doit faire des contributifs pour l'Afrique. Actuellement, dans les liens panafricanisme, nous devons aussi, comme la jeunesse, faire la révolution.
C'est-à-dire?
La révolution, c'est-à-dire nous devons mettre sur la table le problème socio-économique et aussi les problèmes de la santé de nos peuples. Par exemple, la stigmatisation des enfants en Afrique est très élevée. Comme on a éradiqué l'albinisme, on peut éradiquer l'épilepsie. Les malades qui ont l'épilepsie, ils peuvent travailler, ils peuvent être autonomes. Je peux vous donner l'exemple de Brad Mwaya, un jeune de la Zambie qui a développé un app qui aide les malades sur le plan national.
Comment cette application aide tels les malades ou leurs familles?
Cette app est liée même aux parents. Les parents savent si l'enfant est malade, même s'il tombe dans la rue, ils peuvent savoir. En ces temps, il est au gouvernement africain d'adopter l'acte de l'OMS, le 73.10, c'est-à-dire d'aider la jeunesse africaine à être capable de prendre des trainings dans la neurologie et d'être des ambassadeurs pour leurs frères. Je crois que maintenant, l'Alliance de l'Afrique, nous avons pu faire ce qu'on appelle Indaba Voice, c'est-à-dire c'est un network de jeunes africains. On se rencontre, on parle de nos problèmes et on cherche des partenaires pour résoudre leurs problèmes. Et je crois que sur la voie de l'Amérique, vous avez aussi d'autres personnes qui sont prêtes à nous aider à partir de l'Amérique. Ils peuvent venir et accéder à l'Alliance de l'Afrique et aider ces jeunes-là.
Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation de cette lutte contre l'épilepsie.
Merci à vous.
Et merci Nanit.
C'était l'entretien que nous ont accordé Madame Chantal Kanyabou-Tembo et le professeur Najib Kisani.
Madame Chantal Kanyabutembo est fondatrice de Gecko Rwanda, une organisation de lutte contre l'épilepsie. Notre deuxième invité, Najib Kisani, est professeur de neurologie au CHU Mohamed VI de Marrakech et directeur de recherche au centre de recherche de la faculté de médecine de Marrakech au Maroc. Il est également président de la Ligue marocaine de lutte contre l'épilepsie et directeur du groupe Téléhealth, tout ce qui est télémédecine et e-santé de l'Alliance africaine pour l'épilepsie. Fin de l'interview, c'est également la fin de ce programme hebdomadaire « Votre santé, votre avenir » qui était structuré autour des difficultés dans la lutte contre l'épilepsie. Nos deux invités, le professeur Najib Kisani et Madame Chantal Kanyabutembo, ont expliqué comment la pandémie de coronavirus a exacerbé les difficultés dans la lutte contre l'épilepsie. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Devant ce micro, Nani Totalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Screen. You just